Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous. Les portes du club s'ouvrent comme chaque mercredi. On est ravis de vous accueillir pour croiser les univers comme on aime le faire. On va parler ce soir de mini-séries, de web-séries, plus exactement de comédies musicales, plutôt d'institutions musicales. On va voir ça dans un instant. Et on aime mettre en avant de nouveaux visages. Ce sera au programme de cette émission. On va parler d'une nouvelle série qui débarque sur les réseaux sociaux qui s'appelle Post-Rupture, avec sa créatrice et comédienne principale, on peut dire ça comme ça, c'est
oui,
bien.
Co-créatrice.
Co-créatrice. Claire-Lise Le Cerf qui est avec nous, merci d'être là.
Merci beaucoup.
C'est un plaisir.
Invité, merci.
En face de toi, quelqu'un qui va cartonner et qui cartonne jusqu'au début du mois de janvier dans une institution musicale, je le disais, c'est un spectacle qui tourne depuis des décennies aux États-Unis et qui arrive en France, la petite boutique des horreurs. Et il a la lourde tâche de jouer, je crois, la plante carnivore, c'est ça?
Fallait pas le dire maintenant, les gens, ça...
Ah bah j'ai vu un reportage au JT, c'était raté, monsieur.
C'est vrai.
Daniel Jolobé, que je suis ravi d'accueillir, parce que c'est un de nos excellents comédiens français, évidemment au doublage, mais plus largement, même en télévision, que j'aime beaucoup, et je suis ravi de toujours mettre en avant. Merci d'avoir répondu présent, parce que...
Et merci de l'invitation.
Il y a quelques jours, en plus, de débuter un tournage pour un nouveau projet de mon ami David Ourek. Donc voilà, c'est intense. En ce moment, la fin de l'année est intense.
C'est bien.
Et en face de vous, à côté de vous, un nouveau visage qu'on aime les mettre en avant dans cette émission. Je suis ravi de pouvoir vous la présenter. Elle est avec nous pendant toute cette émission. Elle s'appelle Clémentine Millière, une jeune comédienne. Vous allez la découvrir tout à l'heure, et puis tout au long de cette émission, parce que tu es là chez toi et tu interviens quand tu veux avec nos invités. Et bah tiens, avant justement de pouvoir discuter avec lui tout à l'heure, petit teasing sur l'une des nombreuses activités de notre invité, parce que je pense que après avoir montré qu'il ne faut pas prendre l'avion avec lui, il va montrer qu'il ne faut pas prendre le train avec lui. Voici un teasing d'une série qui doit revenir normalement au mois de janvier prochain. Regardez.
Einsteigen bitte.
Et alors là, je suis sur le cul, Pourtant, Idriss Elba, je pensais que c'était toi, tu vois.
Ah, pas toujours.
Et pas toujours.
On le partage avec un super comédien qui s'appelle Franz Confiak.
Bon, ben voilà. Et qui sera dans Hijack saison 2 qui arrive au mois de janvier. Mais c'est vrai que c'est pas trahir de dire que c'est un comédien que tu accompagnes depuis quand même
ouais,
très
ouais.
longtemps.
Et d'ailleurs, là, je suis dans House of Dynamite.
Qui est une formidable. Qui est incroyable. Ouais. Incroyable.
Et oui, il m'arrive quand même de le doubler. On se le partage, on est bien.
Mais c'est très très bien, ce sera l'occasion peut-être de recevoir ce monsieur aussi que je ne connais pas. Mais alors, j'en profite, petit aparté, si vous n'avez pas vu House of Dynamite, allez-y, c'est incroyable. C'est un film qui est dingue, qui est disponible sur Netflix, si vous l'avez pas vu. Qu'est-ce qui se passe-t-il si d'un seul coup, les États-Unis découvrent qu'ils ont raté le lancement d'un ogive nucléaire, qu'ils se dirigent vers une ville américaine, qu'il va s'écraser sur une ville américaine dans les 20 minutes qui arrivent. Et en fait, on va découvrir cette situation sur trois points de vue différents jusqu'au président des États-Unis. Et je trouve, je ne sais pas en tout cas comment fait ce garçon, il est toujours impeccable. Idriss Elba dans cette série est,
il est très fort.
Incroyable.
Dans ce film.
Dans ce film, pardon, c'est un film. Il est incroyable avec ses questionnements sur qu'est-ce qu'il faut faire justement pour éviter qu'il y ait un engrenage nucléaire à l'échelle mondiale jusqu'à un final. Avec un twist incroyable, je ne m'en dirai pas plus.
Non, faut pas dire.
Mais
non, mais après.
Ça a vraiment donné envie. Là, je ne connais pas le film. J'ai trop envie d'aller voir.
C'est génial parce que au moment où tu penses que la bombe va s'exploser quelque part, tu bascules sur un autre point de vue. Tu commences par le centre des opérations à Washington, ensuite tu bifurques vers le centre nucléaire américain, et ensuite tu vas sur le point de vue du président des États-Unis. Mmh. Et à chaque fois, tu redécouvres certains points de vue de comédiens et de personnages. Incroyable, ça dure 1h50 et c'est signé Catherine Bigelow, qui est quand même une immense réalisatrice.
Et
voilà.
Ce qui est drôle à propos de ce film, c'est que beaucoup disent que visiblement c'est comme ça que ça se passerait dans la réalité. Même si en ce moment le président Trump dit que c'est des bêtises. Il a carrément fait un communiqué pour dire que absolument pas du tout, mais tous les experts sont d'accord pour dire que c'est le scénario le plus plausible qui soit en cas d'attaque.
Qu'est-ce qui se passerait? Comment intercepter ou ne pas intercepter? Et surtout, quelle riposte opérer si jamais ça arrive? Bref, House of Dynamite, c'est sur Netflix, c'est signé Catherine Bigelow. Et c'est absolument à découvrir avec notamment Idris Elba. Mais il y a une galerie de personnages et de comédiens qui sont incroyables. On va parler dans un instant de justement... Post-rupture, cette mini-série sur disponible sur les réseaux sociaux que j'ai découvert. Et alors, c'est vrai que quand vous allez voir un extrait du premier épisode dans un instant, il n'y a pas de surprise quand on connaît Claire Lise. On reconnaît bien son énergie dévorante, sa capacité à transformer son visage, à faire des mimiques et tout. Moi, j'adore. Je t'ai retrouvé et j'ai dit, ouais, ça, c'est une série authentique, comme on les aime.
Auparavant... Les gens qui disent qu'il y a du vécu. peut-être, mais je ne dirais pas quoi. Mais pour la petite histoire, en fait, c'est certes une web-série, c'est certes une série de sketchs, mais c'est parce que nous avons créé avec Tanguy Omehara, le réalisateur et co-auteur de la série, nous avons créé en fait une vraie série en 6 épisodes de comédie d'environ 35-40 minutes. Et c'est pour mieux vendre ce projet qu'on a décidé de faire une sorte de spin-off sous forme de sketch. Afin de pouvoir en fait montrer le potentiel sans révéler la série, parce que certes il y a des vécus, du vécu dans le sketch, mais la vraie série parle de vengeance. J'espère qu'il y en a un petit peu moins.
Bah, écoute, vu ce qui se passe dans le premier épisode, je ne vais pas spoiler ce qu'on va découvrir dans un instant, mais j'espère qu'il n'y a pas trop de vécu.
J'espère aussi.
Sinon, la machine à laver, s'en souvient.
Je ne dirai rien.
Avant, vous le savez, on aime bien parler de pop culture dans cette émission. Juste vous signaler la sortie d'une bande dessinée depuis quelques jours. Voici le teasing qui avait été fait pour le premier volet il y a déjà 3 ans de cette bande dessinée. Il est sorti aux éditions Kana. Voici le teasing et juste après, je vous la présente.
Depuis la nuit des temps, les dieux de l'Olympe s'affrontent pour le contrôle de la Terre. Face à eux se dresse la déesse Athéna, aidée de ses chevaliers. Je suis Seiya, chevalier de bronze de Pégase. Et avec mes amis Shiryu du dragon, Shen d'Andromède et Yoga du cygne, nous nous sommes réunis autour d'Athéna pour lutter contre les forces du mal. Mais voilà qu'un nouvel ennemi fait son apparition. Son but est d'éliminer notre compagnon d'armes, le chevalier de bronze du phénix. Découvrez une aventure inédite en bande dessinée, Saint Seiya les chevaliers du Zodiac, aux éditions Kana.
Brûle mon cosmos!
Voilà, et c'est l'occasion évidemment, comme on le disait avec Daniel, d'avoir une pensée évidemment pour Éric Le Grand, qui était la voix de Seyard dans Les Chevaliers du Zodiac depuis des décennies, qui était aussi celle de plein d'autres dessins animés. C'est une voix iconique qui nous a quittés il y a quelques mois, on lui avait rendu hommage dans cette émission. Et voilà, c'est toujours un plaisir de réentendre cette si belle voix. C'est Jérôme Alquier qui est à la signature notamment de cette bande dessinée. Jérôme Alquier, qui est un grand auteur de BD, qui a obtenu l'autorisation du créateur japonais Masami Kurumada de créer une espèce de série dérivée des Chevaliers du Zodiac et de la rendre canon, c'est-à-dire de l'insérer dans la narration de la série. Là, les chevaliers sont chargés d'affronter un dieu, le dieu Chronos, qui vient s'immiscer dans les interstices de la série. Et donc, à chaque petite encablure, fin de saison, nouvelle arche, eh bien, lui, il vient insérer une déclinaison avec ce dieu-là. Là, c'est le 4e volet sur 5. Le 5e devrait sortir d'ici à peu près un an et demi. Clôturera cette saga. Et là, on va s'intéresser à chaque franchise, à chaque album, on s'intéresse à un nouveau chevalier. C'est le chevalier Phénix, avant-dernier volet de cette bande dessinée, voilà, qui accompagne toute une génération. Et c'est vrai que les Chevaliers du Zodiac, c'est un dessin animé qui est culte et que tout le monde ne cesse de redécouvrir. Voilà, ça s'appelle donc Time Odyssey et ça vient de sortir aux éditions Kana. Parlons d'un autre forme de combat que mène notre invité Claire Lise avec les débuts. On va vous montrer les premières minutes du premier épisode de cette série. Pour ça, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Ça vous donnera le tempo. Ça s'appelle Post-Rupture. Et voilà, c'est une web-série, on l'a bien compris, qui doit normalement donner le visage d'une future série qu'on espère découvrir très bientôt sur une chaîne de télé. Regardez.
Il a pris mon cul pour un pare-choc et ma tête pour un bélier.
Je vais te faire de là, je te dis.
Mais je l'ai fermé, là.
Mais où, toi? Parce que je
criais. Pourquoi tu criais aussi?
Je sais pas. Je le motivais, je voulais que ça s'arrête.
Tu faisais quoi comme cri, exactement?
Ah bah clairement, je faisais le cri de la meuf qui a 3 mois de loyer trop tard.
Ma pauvre.
Alors pour 6 minutes 32, j'aurais dû faire un constat.
Mais non! T'as calculé?
J'étais en tête à tête avec la minuterie du micro-ondes, je te rappelle. peut dire que je l'ai vu passer les secondes.
Mais tu m'étonnes que tu l'aies largué.
Blette. Oh la blette. Une sale blette.
Je voyais pas du tout triper sur les légumes, Greg.
Greg? Bah non, mais c'est Greg qui m'a largué.
Quoi? Après t'avoir embouti la carrosserie pendant 6 minutes 32?
Ah mais j'étais pas avec Greg. Ah non, bah c'est bien ça le problème. J'étais avec un client. Un gars qui était venu visiter l'appartement, le duplex.
Quoi?
La suite, vous irez la voir sur la page de la série pour découvrir comment ça se termine. Nous n'allons pas te demander ce qui était autobiographique dans cette séquence. Ce serait beaucoup trop gênant. On ne te connaît que depuis trop longtemps avec Daniel. Mais post-rupture, comment est née cette série?
Alors, en fait, cette série, je l'ai en tête depuis des années. Ça fait peut-être quasiment 8 ou 9 ans, je pense, que j'ai imaginé cette série. Lors d'une soirée entre copines où on échangeait nos mauvaises expériences. Et j'en ai reparlé cette année. J'avais déjà commencé à travailler dessus et j'en ai parlé à mon co-auteur Tanguy Omehara. Et on a décidé de se lancer parce qu'on croyait dans ce projet. Et on l'a vraiment transformé à deux pour en faire notre projet. Donc c'est vraiment un projet un peu à deux têtes. Et en fait, le vrai pitch de la vraie série, ce sont donc deux femmes un peu en galère financière et émotionnelle qui décident de se lancer dans un business d'un nouveau genre, c'est-à-dire une sorte de yoga thérapie post-rupture, parce que ma partenaire, que vous voyez, Constance Carlet, est une prof de yoga un peu, voilà, qui n'a pas beaucoup de succès, on va dire, dans ses cours. Sauf qu'on se rend très vite compte que ce qui est très lucratif, c'est... ce n'est pas la vitrine, mais plutôt ce qui se passe sous le tapis de yoga, c'est-à-dire une agence de la vengeance amoureuse. Et donc, on monte une agence de la vengeance amoureuse jusqu'à ce que ça dérape de manière drastique.
Mais tu le disais, c'est fait comme une vitrine pour justement initier ce projet de série de 6 fois 30 minutes à peu près. Ça veut dire qu'on se projette déjà, quand on l'a écrit, vers la chaîne, le canal où on va le diffuser.
Oui, alors...
Il n'y a pas tellement d'endroits, beaucoup d'endroits.
Oui, c'est
on
vrai.
Accepte ce format-là, donc c'est pour ça que ce qu'on l'écrit en fonction.
Le format fait qu'on ne va pas pouvoir aller de partout. C'est vrai que c'est vraiment un format comédie. Donc le format comédie, en général, c'est en dessous de 40 minutes. Donc voilà, on est parti sur ça, même si on peut aller sur du 52 minutes. Mais c'est vrai qu'il y a quand même de l'humour un peu caustique, un peu cynique. C'est fait pour être très, très drôle. Mais il y a quand même un cadavre, quoi. Donc voilà.
Quand même, oui.
Ah bah oui, bah ça commence par un cadavre. Et puis après, on essaye de remonter le temps et comprendre ce qui se passe. Mais la série de sketchs sur les réseaux sociaux, elle n'est pas du tout sur ça. Elle n'est pas du tout sur la vengeance. Elle est vraiment sur les préquels, le spin-off, sur juste l'idée, comment ça arrive. C'est-à-dire ces deux nanas qui sont dans des ruptures complètement différentes, qui se rendent compte qu'il y a plein de gens qui ont plein de ruptures complètement différentes en phase 2. Et elles se disent, bah tiens, on va peut-être allier nos compétences et lancer un business plan pour renflouer les caisses. Et donc, c'est vraiment le tout début. Mais finalement, le business plan va briller, quoi.
Il y a pas mal de chaînes quand même qui peuvent accueillir ce genre de format. Je pense à Slash, je pense à Ciné+, OCS, par exemple, voire même peut-être Arte. Mais c'est vrai que ça limite un petit peu les possibilités. Mais en même temps, ça assure un cadre dans lequel on peut faire ce qu'on veut. Parce que c'est vrai que j'imagine cette séquence-là en ouverture après le JT de TF1 ou sur France Télévisions, et la ménagère nous fait une syncope. Ça, c'est quand même... faut quand même le reconnaître.
Oui, mais c'est vrai qu'il y a un petit côté un peu sexy. Très légèrement, c'est un peu... Nous, on s'est vraiment inspiré de tout ce qui est, par exemple, Fleabag. Les premières séquences de Fleabag, elle est exactement pareille. On ne voit rien du tout, mais on comprend quand même qu'il se passe des choses. voilà, c'est... Enfin, moi, j'ai grandi avec des séries telles que Sex and the City. J'ai grandi avec le film L'Arnaqueur, que je trouve extraordinaire, qui est un peu dans le même genre. Là, c'est
avec Romain Duris et Vanessa Paradis.
Exactement. Donc, on est vraiment dans cette comédie-là, voilà, qui est un peu grinçante sur certaines choses, mais qui reste très comédie et qui s'adresse à tous les publics. Et bien entendu, on va traiter de toutes sortes de ruptures. Ce ne sont pas que les femmes, bien entendu. On va traiter de tout, de tous les âges, de tout ça.
Et tu réalises?
Alors non, là j'ai pas réalisé.
T'as pas réalisé.
J'ai pas réalisé. Là c'est Tammy, donc le co-auteur, qui a réalisé, mais je suis au montage.
Toi.
Oui, c'est vrai que j'ai réalisé d'autres choses.
Ouais, t'as fait des courts-métrages qui ont cartonné d'ailleurs. Je crois que celui que t'as fait notamment, je sais pas si c'est le premier.
Le premier, le complexe de la baignoire, oui, qui a été.
Récompensé dans pas mal de festivals.
Ouais, pas mal, qui a été aussi multidiffusé sur TF1, TF1 Série, OCS et puis un peu à l'étranger. Donc ça, c'est chouette. Puis là, il y a le deuxième qui était Allez Vongolais, qui était ce week-end en festival et qui a gagné le prix de la bande originale. Donc c'était chouette pour
Madame.
Mon compositeur Valentin Pouineau. Non, c'est chouette. Mais là, c'est vrai
qu'il y avait l'envie de s'installer dans une série, dans un format, dans un personnage récurrent.
Il y avait l'envie de faire de la comédie. En fait, donc, comme je te disais en aparté en début d'émission, il se trouve que je connais Daniel en face de moi, ici présent. Daniel est un ami de longue date et je pense que c'était en 2014, il m'avait dit « Mais Claire-Lise, il faut que tu fasses ta série, il faut que tu montres le côté comédie. » Parce que c'est vrai, toi aussi, tu me connais, j'ai fait beaucoup de séries de drames, j'ai fait... Mais à la base...
Tu pleures très bien.
Oui, on m'a beaucoup mis dans les larmes. Mais c'est vrai que j'adore la comédie. Et Daniel m'avait dit, mais ouais, mais... Les gens ne vont pas t'imaginer au premier abord dans ça. Donc, montre-leur que t'aimes ça, que tu peux le faire. Et d'où
parce
aussi
qu'elle a
cette
un sens série. Du rythme.
Ah non, incroyable. Mais ouais.
Incroyable.
Puisque j'ai dit tout à l'heure, on l'a taquinant, mais c'est vrai qu'en plus de ça, elle a une... Elle est capable d'une gymnastique faciale qui est assez extraordinaire. Non, mais... C'est-à-dire que souvent, on a beaucoup de comédiens ou comédiennes qui se retiennent de jouer avec leur image, de casser cette image. Et toi, en fait,
t'adores. Ah bah là, le premier plan, il n'est pas à mon avantage, clairement. on n'est clairement pas sur
on
un plan...
à l'avantage de personne, tu sais.
Oui, mais bon. Mais par contre, donc ça, je ne réalise pas cette série-là, mais je suis au montage avec Tanguy et on choisit tout ensemble. Que ce soit les comédiens, les décors, les costumes, c'est vraiment un projet, ouais, comme je te disais, un peu à deux têtes, quoi. On a embrassé tous les deux ce projet et lui, il est à la partie réalisation, tandis que moi, je suis, comme je joue, c'est quand même plus simple.
Mais c'est ça qui est génial aujourd'hui, c'est que quand on démarre ou pas dans sa carrière de comédienne ou comédienne, on a des outils à sa disposition pour créer ses propres univers et pas attendre qu'on nous les donne, Clémentine. Je rebondis juste sur toi un petit peu, mais j'imagine que ça, c'est génial de se dire je vais pas courir après les projets, je vais les faire aussi quoi, quand on joue. Ouais,
clairement, grâce au réseau, on se dit... Enfin, ils sont là, de toute façon, donc autant les utiliser. Et le principe de la websérie, j'en ai fait aussi avec même des amis. Et c'est génial de pouvoir se dire, se donner des chances à nous-mêmes sans attendre qu'on vienne nous les proposer, les projets. Donc pour commencer et même pour lancer des projets comme toi, c'est génial. Hein.
T'aimerais écrire, toi ? T'aimerais en faire ?
Moi, j'ai écrit pas mal, mais la réalisation, c'est encore loin, je pense. C'est encore un autre travail, je trouve. Je préfère me positionner uniquement sur l'acting pour le moment. Mais oui, il y a plein d'idées qui... Oui, voilà, je me dis ça aussi. Il y a plein d'idées qui fusent, que j'écris dans mes petites notes. Tu vois, on a tous nos petits carnets avec plein d'idées. Mais pour le moment, je pense que c'est plutôt joué.
Regarde, ça a pris 10 ans pour qu'elle y arrive à faire la série.
Ouais, non, mais j'avais commencé avec le complexe de la baignoire, le court-métrage. Pareil, hein, c'est toujours été ces idées, cette idée qu'avait implantée Daniel. Mais c'est vrai que ça prend du temps. Mais après, la réalisation, je trouve ça assez génial. En fait, d'être sur un projet de A à Z, surtout dans le format du court-métrage ou dans le format de la web-série, c'est-à-dire que c'est autoproduit, ce sont nos projets avec nos moyens, donc entre guillemets, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Après, dès qu'il y a un peu plus d'argent, en général, il ne s'agit pas d'une autre, donc...
ouais, mais alors,
en général, il y a un peu plus de concessions à faire.
Comment on fait quand son projet qu'on a envie de mettre sur une chaîne de télévision, on l'a initié soi-même sur les réseaux sociaux avec justement cette liberté totale? Et que cette liberté totale, sans vouloir spoiler ce qui va arriver derrière, elle sera plus compliquée à obtenir quand on va arriver, mais ce sera toujours le même projet.
Bien
sur
sûr,
lesquels il va falloir renier peut-être sur des choses. Est-ce que ce n'est pas frustrant de le savoir à l'avance?
Alors, on sait qu'on va devoir renier sur certaines choses. Après, nous, on avait commencé à envoyer le pitch de la vraie série juste avant de lancer sur les réseaux sociaux. Et on a eu beaucoup de retours, de très bons retours. Donc, on sait que notre pitch... notre dossier, il y a quand même une demande en ce moment de ce genre de programme parce que c'est vrai, et moi je le vois, hein, je suis une jeune maman, le soir quand tu rentres chez toi, que tu es fatiguée, que tu as couché tes enfants, etc., tu n'as pas forcément le temps de regarder 2 fois 52 minutes, tu n'as pas forcément le temps de regarder 1h30, 2 heures de film, et donc un petit programme de 35 minutes, 40 minutes, qui est de la comédie, qui te vide la tête, etc. ça fait du bien et ça passe dans l'emploi du temps. Non, mais c'est vrai. Et on a envie de se reconnaître. Et je pense que c'est une série dans laquelle on peut beaucoup se reconnaître. Après, c'est sûr qu'on a quand même une liberté de ton qu'on a envie de faire. Ça reste très sage, très soft. Déjà, parce que comme c'est moi qui vais l'interpréter, je n'ai pas du tout envie de m'amuser non plus à faire n'importe quoi. Hein, soyons.
La machine à laver, ça va une fois. Bon,
ça va une fois, mais on va pas non plus. Donc voilà, on va faire des petites choses, mais ça reste très gentil. Et d'ailleurs, quand on regarde le sketch, on ne voit rien. On ne voit que ma tête.
Bien sûr.
Enfin, je veux dire, c'est...
Personne ne sait ce qui se passe.
Mais non.
Mais non.
Mais il y a juste une histoire de ratatouille, de bled, de trucs. Là, on a rien de...
Il n'y a pas de spoil, il peut se passer n'importe quoi.
Voilà. Oui. Non, mais après, c'est sûr qu'il y aura des changements qui vont être effectués, mais c'est aussi... on peut aussi le voir comme une chance, en fait, de se dire, bah, y a des gens plus expérimentés que nous qui vont nous donner aussi leur avis. On va aussi construire un projet après à plusieurs, où on va essayer de construire quelque chose, construire une belle histoire qui plaise, on l'espère, qui plaira au plus grand nombre. Donc, les avis sont toujours bons à prendre de manière générale. Je pense qu'il ne faut pas être fermé au changement.
Bon, là, t'es très ouverte.
Peut-être un petit peu trop.
On ne peut pas être plus ouverte que ça. Je veux dire, ça c'est...
Plus ouverte que le micro, en tout cas.
Puis, ça peut être intéressant. Après, ça dépend qui va... produire.
Exactement.
Mais ça peut être intéressant d'avoir aussi un producteur qui va amener aussi...
Mais ça dépend du diffuseur aussi.
Ouais.
Suivant le diffuseur, tu as une liberté de ton plus ou moins grande. Donc nous, ce qu'on espère, c'est quand même avoir une liberté de ton. Après, la série n'a pas du tout vocation à être trash. Elle a vraiment vocation à être drôle.
Drôle.
Ouais. Ouais, c'est la différence.
Ça, c'est l'énorme différence. Parce que moi, je fais partie de... Voilà, je suis quelqu'un qui vient de province, qui a grandi avec la télé, qui a grandi avec des programmes cultes, avec les films que tout le monde a vus. Et je pense que je fais vraiment partie de ce public qui aime des choses que...
Populaires.
Populaires, en fait. Donc, là, ça a quand même vocation à être comme ça.
On espère, en tout cas, que... ça va fonctionner, mais on n'en doute pas. Effectivement, les créneaux, ils existent. Il y a suffisamment de chaînes. Il y a les plateformes maintenant qui sont ouvertes aussi. En tout cas, on croise les doigts. Et on souhaite, avec cette série, le même succès que tu rencontres, notamment au théâtre. Parce que c'est vrai qu'on est là pour parler notamment de fiction. Mais c'est vrai qu'au théâtre, ça se passe quand même pas mal du tout depuis quelques années. Il faut quand même le dire.
Oui. Alors après, là, cette année, j'ai fait surtout des tournages.
Oui.
J'ai fait beaucoup de tournages cette année. J'ai fait du théâtre, certes. Là, c'est 8 dernières années un peu non-stop. Mais là, cette année, bah, là, je pars sur un meurtre dans 10 jours. Donc, il y a aussi, on arrive un peu à allier les deux, quoi.
Meurtre.
Je fais un meurtre à Fontainebleau. Avec ouais, pas très loin.
Mais je embrasserai ma copine Roxane Turmel qui joue dedans.
Oui, elle a le premier rôle.
Mais évidemment, le premier rôle. Et ça.
Réalisé par
Sandrine Cohen.
Et qui est aussi une formidable réalisatrice. Donc voilà, mais c'est vrai que.
Le tournage débute aujourd'hui. Oui. Moi, je commence dans quelques jours.
Voilà. Ouais, et ça fait plaisir parce que c'est. Voilà, Roxane, c'est comme toi, c'est des comédiens qu'on a vu beaucoup arpenter les scènes de théâtre, les petits rôles derrière en guest, etc. Et qui, là, d'un seul coup, a une grande explosion. Et j'ai été la chance de l'avoir sur un tournage d'un unitaire pour France Télé qui s'appelait Alma il y a quelques semaines dans le Sud sur justement le harcèlement de rue.
Oui, il paraît qu'il est très beau,
c'est super. Incroyable. Et donc, je suis ravi de voir que voilà, finalement, le travail finit par payer quand on s'accroche et que c'est vraiment mérité. Voilà. Et qu'on espère que, et ça, ce sera juste une private joke, qu'elle gagnera suffisamment d'argent pour pouvoir acheter plein de Nutella. Voilà. Petite private joke entre nous. En attendant, ça s'appelle Post-Rupture. C'est disponible partout sur les réseaux sociaux.
C'est disponible Instagram et TikTok.
Instagram et TikTok. Avec ce format-là, voilà, vous avez vu un petit extrait du premier épisode. On vous mettra les liens vers le compte de la série. Allez-y, foncez. Vous allez bien vous marrer avec Clairelise et avec toute l'équipe de cette série. Clairelise qui va malheureusement devoir nous quitter parce qu'elle a évidemment beaucoup de projets en tant que méga star qu'elle est. Mais voilà, allez-y, ça fait partie des talents à suivre, à surveiller de très très près.
Merci.
On t'embrasse très très fort. Et puis, on va te laisser filer pendant la prochaine vidéo. Le temps d'arriver aussi à notre deuxième invité, Daniel, qui est avec nous. Et puis, Clémentine, qui reste aussi avec nous. C'est une sortie d'une série culte chez Elephant Film. Ils aiment bien ressortir des vieilles séries des années 70, 80, 90. Là, on est dans les années 90. Si vous avez grandi le dimanche après-midi, devant vos écrans de télévision, forcément, cette série, vous allez la reconnaître rien qu'avec le générique. Ils ont la bonne idée de la sortir en intégralité. Ça sort le 25 novembre prochain. Je vous laisse la découvrir. Et juste après, on est en compagnie de Dalien Jolobé qui sera avec nous. Merci Claire-Lise d'avoir été là.
Merci
à très vite.
Toi.
On y va.
Il était flic, il faisait du bon travail. Mais il avait commis le crime le plus grave en témoignant contre d'autres flics qui avaient mal tourné. Ces flics avaient tenté de l'éliminer, mais c'est la femme qu'il aimait qui avait été touchée. Accusé à tort de meurtre, il rôdait maintenant du côté du Dakota. Un hors-la-loi poursuivant les hors-la-loi, un chasseur de primes, un renégat.
Et voilà, Stéphane J. Cannell, c'est vraiment, vraiment une sommité. Mais c'est vrai que c'est intéressant qu'ils aient choisi de sortir ce coffret. Il y a 5 saisons aux Rebelles. Les 5 saisons sont disponibles. Il y a un livret détaillé à l'intérieur. On en reparlera. Et puis des photos voilà, qui ont été remises. C'est un très beau coffret à avoir au pied du sapin à Noël. Ça s'appelle donc Le Rebelle. Et puis quand vous avez fini de regarder Le Rebelle, entre deux épisodes du Rebelle, bah vous foncez au théâtre à Paris pour découvrir, bah je le disais, un monument. Vraiment des spectacles qui sont venus des États-Unis. Il y en a quelques-uns comme ça qui débarquent enfin à Paris. La petite boutique des horreurs en fait partie. Et on va avoir un petit teaser de ce spectacle incroyable dans lequel donc joue notre invité, le Dalien Jolobé. Regardez. Et c'est vrai qu'on voit derrière toi l'affiche de la petite boutique des horreurs qui rend hommage à ces grands films fantastiques des années 50 avec ces lettres oranges étalées. Il y a plein de films comme ça qui pourraient nous venir, comme La Guerre des Mondes ou des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est un monument du spectacle anglo-saxon, la petite boutique des horreurs.
Oui, et qui ne s'est pas joué en France depuis, je crois, 40 ans à peu près.
Ah ouais, c'est considérable. C'était déjà venu chez nous quand même.
Oui, oui.
Aux États-Unis, c'est quand même un phénomène. Donc, ça paraît lumineux, ça paraît pop. C'est une histoire quand même qui est extrêmement glauque.
Écoute, c'est pas qu'elle soit glauque, c'est que c'est une histoire qui nous raconte un peu dans nos travers aux uns et aux autres. Donc c'est l'histoire d'un jeune fleuriste qui va trouver une plante un peu particulière et il s'avère que cette plante il va la trouver toute petite et elle va grandir et elle va se nourrir de sang. Et tout particulièrement de ce sang
humain, évidemment. Avec je ne dirais pas évidemment ce qui se passe, comment ça se termine, mais c'est vrai que le final de la pièce est quand même très particulier. Là aussi, parce qu'il a fait le tour du monde, et c'est vrai que sur YouTube, on le trouve défloré à tire-larigot, mais ça montre quand même que le spectacle va très, 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 très loin.
Très, très loin. Et en plus, la mise en scène de Valérie Le Sort et de Christian Heck va encore plus loin que les autres mises en scène.
C'est vrai.
Ah oui, complètement.
Ils ont poussé le...
Mais parce que, tu sais, ces deux metteurs en scène qui sont... Elle est marionnettiste et plasticienne. Et lui, bon, je ne sais pas si tu avais vu les spectacles La Mouche ou les autres spectacles qu'ils ont pu faire.
Inspiré du film de Cronenberg.
Ouais, ils ont cette capacité à transformer les univers et à les rendre complètement à part. Et là, ils ont vraiment fait quelque chose qui ne ressemble pas vraiment à ce que tu pourras voir partout sur YouTube.
Et alors que tu te dis, la créature est petite, elle devient grande. Mm-hmm. Ça veut dire que toi, tu as dû moduler ta voix ou vous êtes plusieurs à interpréter la bête?
Non. Mais je peux pas trop dévoiler. Non. Elle a ma voix. Elle a ma voix, mais elle a cet avantage d'être complètement
c'est inattendu.
Inattendu et complètement imprévisible. Donc, parfois, elle va avoir une grosse voix, parfois une toute petite. Il n'y a pas de, règle.
Tu t'amuses dessus?
Énormément. Énormément.
C'est génial, parce que franchement, là, c'est l'apprentissage de l'humilité, parce que finalement, tous les comédiens, t'es le seul qu'on ne va pas voir.
Ah si, on me voit.
Ah, on te voit?
Mais même dans la bande-annonce, j'y suis.
Alors mince, on n'a pas vu.
J'étais dans la bande-annonce.
Ah bah je vais la repasser à l'envers. On va la repasser à l'envers et avoir
mais donc. Non, on me voit. Non, je suis là. Je suis là. Mais c'est tellement. Tu vois là sur la photo, il y a Judith Fa qui est une immense chanteuse lyrique et les trois, ce qu'on appelle les trois Renettes, les trois Grâces. Laura Nanou, Anissa Brami et Sophia Muntasir. C'est un niveau de chant. Mais un tel niveau de chant, c'est-à-dire que vocalement, je prends un pied tous les soirs, quoi. Il y a vraiment un niveau de chant, en plus avec des gens qui ne viennent pas forcément des mêmes univers, puisqu'on a donc deux chanteurs lyriques, donc Judith Fa et Guillaume Andrieux. Et on a deux spécialistes de la comédie musicale, à savoir David Alexis et Arnaud Denicel, qui tournent aussi beaucoup. Et donc, il y a ce mélange artistique et qui est dans une harmonie totale.
Et on oublie une autre personnalité qui est au croisé des deux, finalement, au croisé de la comédie et de l'univers musical, c'est Daniel Jolobé. Parce que tu joues beaucoup, mm-hmm. théâtre, mais tu chantes aussi.
Ouais. Ouais.
Plutôt dans un style jazzy. C'est pas... En tout cas, il y a des spectacles que tu as fait qui étaient vraiment
groovy jazzy. Groovy jazzy là. Mais j'ai eu la chance de chanter avec Nathalie Dessay à la Philharmonie. Et on était pareil sur une autre comédie musicale. Mais c'est vrai qu'on était plus. C'était un peu moins jazz.
Et tu te produis dans des petites salles aussi.
Oui,
dans
c'est
des
ça.
Petits concerts où c'est
ça,
avec cette voix quand même très, très marquante et très marquée que l'on connaît.
Écoute,
évidemment.
Ça, c'est notre dentiste et donc le héros, Guillaume. ce spectacle, parce qu'il s'est joué en 2022. Et quand on m'a proposé de faire Audrey 2, je savais pas trop de quoi. J'avais complètement oublié, alors que j'avais vu le film, mais je voyais plus trop ce que c'était. J'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui m'a dit « Mais si, il faut que tu le fasses, il faut que tu le fasses. » Et c'est Emmanuel Bougerolles qui a donné mon nom au metteur en scène. Et j'étais pas au niveau.
C'est vrai.
Bah, c'est-à-dire que je pense que je suis un très bon chanteur de karaoké.
Je confirme.
mais que pour faire ça, ça suffit pas.
Il faut une autre technique.
Il faut travailler. Et du coup, j'ai eu la chance, un peu grâce à Sandrine Cohen d'ailleurs, qui m'a demandé de chanter pour un événement, pour une sortie de son bouquin. Et il y a un groupe qui s'est formé. Puis j'ai fait donc un premier set, un deuxième dans des bars, dans un deuxième bar. Et au fur et à mesure, d'abord, j'ai plus de musiciens. Donc j'ai mon groupe. Des reprises pour l'instant, mais on va passer à ma musique bientôt.
Ah, attends ça.
Et depuis 3 ans, en fait, ça a pris une ampleur géniale. Et c'est vraiment grâce à ce spectacle. Et ce spectacle m'a amené à jouer avec Nathalie Dessay à la Philharmonie.
C'est dingue parce qu'il y a une vraie tradition. Pendant très longtemps, on a eu les grandes comédies musicales à la française. Mm-hmm. Mais depuis quelques années, notamment avec, à l'initiative d'une production comme Stage, on a des grandes comédies musicales américaines qui débarquent à Paris, mm-hmm. notamment avec Mogador. Et on en voit de plus en plus d'inspiration Broadway ou en tout cas américaine. Toi, tu sens, tu vois, la différence dans la façon d'aborder à la fois le jeu, la chanson, le traitement n'est pas le même, finalement.
Je ne la vois pas beaucoup, parce que c'est vrai qu'en France, on a eu, pendant pas mal de temps, on a fait des spectacles musicaux bien plus que des comédies musicales. Ça fait. Alors qu'on avait une grande tradition dans les années 70.
Avec Jacques Demy, par exemple.
Oui, on avait vraiment... là, il y a les Demoiselles de Rochefort là, qui reprennent. Mais il y avait vraiment une grande tradition de la comédie musicale qui s'est un peu perdue et qui revient en force.
Ouais. Il y a notamment, je vous conseille en ce moment, au Théâtre Antoine, l'excellent Fantôme de l'Opéra, notamment écrit par Benoît Solès, qui est incroyable. C'est une relecture là aussi, parce que le spectacle a cartonné à Broadway et revient effectivement ici. Puis il y a Stage qui cartonne effectivement depuis très très longtemps avec, avec ses spectacles musicaux, notamment Mamma Mia qui a été un carton pour Lyon. Donc voilà, et c'est important parce que ça, ça donne...
Et il y aura un jeune homme de danse au Judice aussi. Il y a un jeune homme dedans qui s'appelle Antoine Le Provost, qui est dans Cher Evan Hansen, que vous pouvez voir un peu partout, et que j'ai rencontré sur, sur Gypsy à la Philharmonie.
Comme quoi, ça crée des, ça crée des liens. Le fait de jouer dans ce genre de spectacle, je le disais, il y a une génération de jeunes comédiennes, comédiens, chanteurs, chanteuses qui maintenant s'initient à des cours. Je pense à des écoles comme l'ICOM, qui forment aux spectacles musicaux. On peut te contacter, on t'a contacté peut-être pour venir les rencontrer, pour venir, ou pas encore, pour venir
non,
pas donner
pas
des cours. Mais...
Pas encore, et d'autant plus que moi, je suis incapable de donner un cours de chant, soyons bien clairs. j'ai la chance justement de profiter de ce spectacle... pour prendre des conseils de, d'un peu tout le monde, parce que c'est vraiment des univers différents, notamment de Sofia Mountassir. Non, si je peux donner des conseils, ça va être plus sur le jeu d'acteur. Mais musicalement, je suis bien, hein, mais il faut rester.
Tu chantes, toi ?
Pas du tout. J'ai dû chanter pour des castings. Et c'est là que je me suis dit, il faut que je prenne des cours.
C'est un métier.
J'ai plein de profs super.
C'est vrai, mais je vais tous les prendre parce que maintenant que je suis sur Paris, il doit y avoir de quoi faire. Mais il faut, c'est trop important.
T'as envie au-delà du simple fait que ça, on peut en avoir besoin pour ce métier ?
Ouais, ouais, ouais. Bah, déjà, c'est trop bien de se dire, je chante et je fais pas pleurer tout le monde par mon chant autour. Tu vois, même en soirée, c'est cool. Mais sinon, au-delà de ça, ouais, j'en ai beaucoup besoin, je pense, dans ce métier. C'est bien de pouvoir danser, chanter et jouer, je pense. Et moi, chanter et danser, bon, on va dire que c'est encore en cours d'apprentissage. Ouais.
Ça peut venir plus vite qu'on ne le pense.
Ouais, bah, comme toi sur ce projet-là, c'est ouf que ça t'ait idée comme ça.
Quand ça tombe comme ça, ouais. Et puis, mais tu vois, pour reparler de la plante et justement qu'on parle du chant et de la danse, il y a un marionnettiste qui est fantastique.
Ça se voit.
Qui s'appelle Sami Adjali. C'est un ancien des Guignols. Il a aussi fait les Minicums. Et il a une façon de bouger, de se déhancher. Tu sens que le gars, il peut presque tout faire. Et même vocalement, il pourrait chanter, mais c'est techniquement, c'est trop compliqué. Il y a trop de choses à faire.
Mais justement, ça se passe comment ? C'est-à-dire que lui, il est là et il gère la marionnette. Mm-hmm. Et toi, t'es où à ce moment-là ?
Alors moi,
où est-ce que c'est enregistré ?
Ah non.
C'est en direct.
Tout est en direct. Il y a cinq musiciens qui jouent en direct aussi. Hein.
Ouais, ouais. Mais la voix de la créature pourra être enregistrée pour plus de facilité. Donc non, tu es là à chaque représentation.
Non, d'autant plus que c'est vraiment du spectacle vivant. Pour peu qu'il y ait un petit incident, quelque chose qui bouge, si t'as un enregistrement, t'es coincé. Alors que là,
donc c'est important de dire que t'es là chaque soir.
Et puis j'ai fait quelques, tous les soirs, j'ai fait quelques blagues à mes partenaires avec la plante. Il y a deux trois répliques.
Donc t'es derrière la scène, t'es.
Je suis à jardin, donc je suis sur le côté. Je suis vraiment bord scène, donc je vois, je peux vraiment jouer quasiment comme si j'étais sur scène.
Ce qui veut dire, sans rentrer dans la taille, mais il faut un travail avec le son qui est aussi incroyable pour ne pas se rendre compte de cette différence de localisation entre la créature
et l'autre. Oui, il y a une spatialisation du son qui est énorme. D'autant plus que la salle n'est pas hyper facile à sonoriser pour ça. Donc c'est vraiment.
Elle n'est pas habituée à ce genre de spectacle.
Non, ils ont pris un pari à la Porte Saint-Martin. Ouais. Je crois que c'est la première ou peut-être la deuxième comédie musicale. Donc c'est un beau pari. C'est un très beau pari.
En tout cas, ça émerge beaucoup. D'ailleurs, si vous êtes Théâtre de la Porte Saint-Martin, juste à côté, si vous voulez emmener vos enfants voir un autre spectacle, pour avoir l'occasion de le voir il n'y a pas longtemps, ils font au Théâtre de la Renaissance, ils font l'adaptation en dessin animé Il était une fois, qui se joue sur scène. Ouais. Il y a le chant et de la danse et de la comédie. Il était une fois la vie, l'espace, l'homme, qui se joue. Donc c'est un dessin animé culte, évidemment, et qui se joue pas très très loin. Donc vous pouvez en profiter si vous aimez ce genre de spectacles musicaux. L'avantage, c'est que Daniel, il a donc le rôle de la comédie qui fait rêver, le rôle du chant qui fait rêver, et il a une troisième partie, c'est la voix, mais vraiment la voix. Et là, je crois qu'il y a une actualité qui vient de sortir il y a quelques mois. J'ai vu une petite vidéo avec toi, je crois que c'était il y a quelques mois. En tout cas, on va voir, c'est une voix iconique d'un personnage iconique, d'une franchise iconique, que ça te rappelle, ça te va, tu vois de quoi je parle. T'as vu une petite vidéo, elle était sur, on la voit sur les réseaux sociaux, regardez.
Ah ouais. Ah oui.
Une grosse pierre siffla dans l'obscurité, lui frôla les cheveux. D'autres suivirent, certaines l'atteignirent. Un projectile heurta Gérald à la tête et le fit vaciller. Les ontophages en profitèrent pour l'assaillir de toutes parts, en poussant des hurlements et des aboiements sauvages. Il le griffait, le mordait, impossible de les dénombrer. Il s'agitait autour de lui avec une impressionnante rapidité. Gérald dégaina son épée, mais la perdit aussitôt. Deux créatures l'avaient immobilisé, une troisième lui avait fait lâcher son arme d'un puissant coup de pierre. La bête ramassa son trophée et le leva en l'air en poussant un rugissement de victoire, sa gueule de chien ouverte à l'extrême. Son triomphe était toutefois prématuré. Gérald repoussa ses deux assaillants, saisit une pierre et la jeta violemment entre les crocs de l'ontophage qui lâcha l'épée. Gérald bondit, empoigna son arme.
On est sur The Witcher.
Sur The Witcher.
On est sur The Witcher. On va voir apparaître peut-être, je crois, voilà, le visuel. C'est une saga que tu lis, effectivement, chez Audiolib. C'est encore un autre exercice, là, pour le coup.
Ah, complètement.
À cheval mais... entre ton rôle de comédien et ton rôle de,
complètement.
De comédien qui fait du doublage.
Parce que, bon, en fait, j'ai fait la voix de Gérald de Rive dans les jeux vidéo.
Ouais.
C'était un truc complètement dingue et là il y a une réédition des livres audio, donc ils m'ont proposé de faire le narrateur et donc du coup tous les personnages de tous les bouquins.
C'est dingue.
Et c'est complètement fou à faire. Donc là vous n'avez pas entendu la voix de Gérald puisque c'était pas cet extrait là mais
Alors, on laisse le suspense, mais c'est vrai que c'est une intensité. Et t'as une façon, effectivement, moi je suis assez fasciné, t'as une façon d'habiter ce que tu peux lire. Et y a pas beaucoup de comédiens comme ça où on se dirait, pardon, vulgairement et trashement, ce mec-là, vous le donnez à lire le bottin et on l'écoute quand même. Quoi. Donc c'est important de marquer son identité, d'avoir une voix qui l'imprime à ce point.
Ouais, et puis c'est vraiment un exercice autre. C'est-à-dire que je pense que maintenant je m'amuse beaucoup. Le premier est toujours un peu plus difficile à aborder. Et là, j'en suis donc au troisième. Je vais enregistrer les six autres. Il y en a neuf en tout.
Ah oui, t'as du boulot.
Mais c'est génial à faire.
Ça prend combien de temps?
Je dirais bien 8 jours d'enregistrement. Je fais jamais plus de 4 heures parce que je dois ensuite aller jouer et que ça fatigue même plus vocalement de faire un livre audio
paradoxalement
que de toujours. Chanter. Oui, parce que c'est pas les mêmes. Tu peux pas te préparer tout à fait de la même façon. Et puis tu vas parfois faire des voix sorties de nulle part. Il faut s'amuser. Tout en étant le plus... c'est-à-dire, tu ne peux pas faire de la caricature comme dans les dessins animés. Il faut vraiment avoir quelque chose qui soit... qui reste agréable à entendre et pas l'impression qu'on t'emmène ailleurs. Donc, c'est un équilibre assez précis à trouver. Mais c'est très, très chouette à faire. C'est très chouette.
Et juste avant de finir, on écoute ce que fait son collègue qui... J'imagine, doit doubler Gérald dans la série de Netflix, par exemple.
Ah, j'ai écouté, oui.
Ouais, pour voir un peu, pour que ça se ressemble, ou pas que ça se ressemble.
Alors, non, parce que j'ai pas eu besoin, parce que comme j'ai fait le Witcher 2 et 3 en jeu vidéo, j'ai eu 6 mois d'enregistrement sur le premier et 1 an et demi sur le deuxième. Donc, en fait.
À traverser avant même que la série arrive, quoi.
Oui, c'était bien avant la série. Et surtout, ils ont eu la gentillesse de me proposer de faire les essais sur Henry Cavill. Mais heureusement que je ne l'ai pas fait parce que c'est très difficile de s'affranchir de ce que j'avais déjà fait dans les jeux vidéo. Et là, il faut faire du doublage, c'est autre chose. Le jeu vidéo, j'ai eu une forme de liberté. Mais si je peux raconter l'anecdote rapidement, c'est que pour le jeu vidéo, je suis venu faire des voix de monstres. Je ne suis pas du tout venu pour faire la voix du rôle principal en casting. Et donc, je fais un certain nombre de voix de monstres, peut-être une bonne dizaine. Et puis, on me rappelle, les développeurs polonais me rappellent en me disant, voilà, bonjour, vous avez fait une voix sur les voix de monstres et on aimerait savoir si vous pouvez la faire plus longtemps. Et donc, on va vous faire écouter. Donc, ils me font écouter la voix où je parlais à peu près comme ça. Je fais, qu'est-ce que vous aimez pas dans ma voix? Elle est pas mal, ma voix. et là, il y a le directeur artistique qui est de dos. Il me dit, fais-le, dis oui. Donc je dis oui, et me voilà parti pour 6 mois à parler avec une voix comme ça. Gérald de Rive, sorceleur. Bon, et je fais le premier jeu, et le deuxième, et l'histoire après, l'histoire se lance, quoi.
C'est tellement mérité. Je le dis à chaque fois qu'on le reçoit, Daniel est un formidable acteur, formidable comédien. au-delà de ça, c'est un type absolument formidable aussi. Mais ça, les gens le verront pas forcément dans les rôles. Mais voilà, c'est quelqu'un. On parlait tout à l'heure de Roxane Turmel, on parlait de tous ces gens-là. Et c'est vrai qu'il y a comme ça plein de comédiens en France qu'on aimerait voir tellement plus exposés, tellement plus en premier plan. Voilà. Et Daniel en fait partie. Donc voilà, j'espère que ça va. Évidemment, il a déjà énormément de projets, mais c'est vrai que voilà, on a envie de le voir s'installer dans des rôles de premier plan encore plus que ça ne l'est aujourd'hui. Et là, il fait du doublage, il fait le théâtre, et en même temps, il va tourner un nouveau projet avec David Ourague, un nouveau long métrage cette fois-ci. Voilà,
pour HBO et France Télé.
Voilà, dont on vous parlera très bientôt, dans lequel il y aura notamment Capucine Malard, qui est une de nos invitées en ce moment dans la loi des séries. On va bifurquer maintenant sur notre troisième invité qui est avec nous, qui est sage depuis tout à l'heure.
Mais bien sûr, je vous écoute.
Mais qui est avec nous, on va en parler dans un instant. Auparavant, puisqu'on parlait de monstres, évidemment, et qu'on parlait d'HBO, ça tombe bien, on va faire le mix entre les deux. Il y a une série qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment sur HBO Max. Je vous invite vraiment à la découvrir. Moi, c'est un de mes coups de cœur de cette fin d'année. Ça s'appelle It's Welcome to Derry. C'est adapté du roman de Stephen King, évidemment, sur le clown meurtrier. Voilà, ça repousse toutes les limites de l'horreur. C'est terriblement glauque, mais c'est vraiment génial. Un petit extrait de la bande-annonce de mi-saison de cette série en 8 épisodes.
You convinced everyone to come and see me. Because you're such a good friend.
Scouts have noted that the residents have been acting more aggressively.
Burn in hell, you son of a bitch!
If we're gonna go after this thing, it needs to be all of us.
That goddamn thing forced itself into my head.
It can't be controlled.
You put us in a cage with a goddamn monster!
The one thing that makes people really listen is fear. You are fucking insane.
This is what it wants, to turn us against each other.
You got my mind all fucked up.
I've always wondered how you taste.
Voilà, It's Welcome to Derry. Si vous avez souvenu des films avec Stephen King et du film qui était sorti il y a 2-3 ans, eh bien, la série ambitionne, en fait, alors, ceux qui se souviennent, le clown se manifeste toujours dans la même ville de Derry, tous les 27 ans. Donc dans les deux films, on la voyait à la fois en 89 et 27 ans plus tard. Et la série obtient en fait de revenir aux origines du monstre en remontant dans le temps à chaque saison et en reprenant un cycle à chaque fois. Donc ça veut dire que là, on est en 1962, on est à Derry qui ambitionne de missionner l'armée pour essayer de repérer une créature qui sévit dans la ville et on ne sait pas qui elle est, mais elle se nourrit des peurs de tout le monde. Pour l'instant, le monstre n'a pas encore fait son apparition, mais on voit qu'il se passe des choses horrible. On commence à mentionner des événements qui se passent dans le passé et qu'on devine qu'on va découvrir dans d'autres saisons, puisqu'on va remonter dans le temps à chaque fois. Et l'idée, c'est de découvrir comment It est arrivé à Derry. On est sur une plateforme, donc ça repousse vraiment l'horreur de manière drastique. Vous verrez dans le premier épisode, si vous ne l'avez pas encore vu, la scène d'ouverture, elle est terrifiante. Je vous invite vraiment à la découvrir. Ça s'appelle Welcome to Derry. Et c'est vraiment, si vous aimez l'horreur, c'est vraiment une série à ne pas rater. Tu aimes l'horreur ?
Ça me fait très très peur.
Ouais. Mais et jouer dans l'horreur ?
J'ai jamais testé encore. Donc j'ai fait des films où je me fais tuer quand même. Donc voilà, mais c'est pas de l'horreur. Donc non, j'ai jamais testé encore. Mais j'aimerais beaucoup. Ça doit être hyper hyper. Je me pose toujours la question de comment les acteurs emmagasinent toute cette peur. Cette charge d'émotion. T'as déjà fait toi ?
J'ai fait des courts métrages, ouais.
Ah, ça doit être fou.
Courts métrages d'horreur. Ouais.
Ok.
À tenter, hein.
Bah, carrément.
À tenter. Et c'est vrai qu'il y a une grande tradition aux États-Unis de comédiens, de comédiennes qui en ont fait. Et voilà, avec notamment le retour, je pense à ça, le retour en 2026, de Scream, cette grande saga qui en est déjà à son 7e volet. Bref, on aura l'occasion d'en reparler. Peut-être d'ailleurs que le prochain film d'horreur sera avec Clémentine Millière, qui est notre invitée. Allez-y, foncez pour découvrir qui elle est. Je pense que le mieux, quand on ne connaît pas encore un visage, c'est de la laisser se présenter elle-même en vidéo.
Mais avec plaisir.
À quoi ça ressemble.
Depuis que je suis petite, je veux faire du cinéma. J'ai grandi dans un coin qu'on appelle la Diagonale du Vide. Mon village comptait 800 habitants, le genre d'endroit où tout le monde se connaît, où les vaches sont plus nombreuses que les gens, et surtout où les rêves restent souvent des rêves, parce qu'ils sont trop grands pour toutes ces routes étroites. Chez moi, il n'y avait pas de cinéma. Pour voir un film, il fallait faire une demi-heure de route. Pas de bus, donc si t'avais pas de voiture, t'y allais pas. Là-bas, les films sortaient avec 3 semaines de retard, et ils restaient à l'affiche une seule semaine. Alors j'ai grandi avec des DVD rayés, des enregistrements télé, et des histoires que je me refaisais dans la tête. C'est peut-être là, en fait, que tout a commencé. À force de pas pouvoir voir de films, j'ai fini par en inventer. Et un jour, je suis partie. J'ai quitté les pâturages pour les plateaux de tournage. J'ai commencé à faire des tournages, des photos, des courts-métrages, tout ce qui passait. J'ai rencontré des gens passionnés, j'ai dormi sur des canapés, mangé froid sur les plateaux, fait 10 heures de trajet juste pour un casting que j'ai pas eu. Petit à petit, les choses se sont faites, avec des détours, des creux, des doutes. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir dire que je suis comédienne. Il me reste encore du chemin, beaucoup à apprendre, des castings à rater, des personnages à découvrir, des émotions à partager. Et même si je viens d'un endroit qu'on oublie sur les cartes, moi, j'ai rien oublié. Et surtout pas d'où je viens.
Une vidéo efficace.
Voilà,
pour se présenter et pour montrer aussi que, à mon avis, la demoiselle, elle a du caractère. Elle a du caractère et surtout ne pas s'en priver de ce caractère.
C'est ça. Quand tu viens de là-bas, il n'y a personne qui vient te chercher en fait. Donc,
faut aller chercher les gens.
Ouais, clairement. Enfin, les petits villages là où il n'y a que des forêts autour de chez toi, des vaches, tout ça, tu ne peux pas parler de cinéma. Moi, j'ai jamais dit quand j'étais au collège que je voulais être comédienne.
C'est pas un métier pour beaucoup de gens.
Ah, t'imagines, qu'est-ce qu'elle veut faire comédienne, ça va pas.
Je comprendrais cette phrase, je crois que c'est dans Le Bossu, je vais la pasticher, si tu ne viens pas à Clémentine, Clémentine ira à toi.
Voilà.
Bah, c'est à peu près ça, t'as pris ton destin en main et t'es venue.
Ouais, c'est ça, je suis partie de ma petite campagne et je suis allée dans les grandes villes, j'ai fait Rennes, j'ai fait Lille et maintenant me voilà à Paris, forcément, parce que pour la culture, on a beau dire, mais c'est...
C'est ici qu'il y a un peu tout, quoi.
C'est ici qu'il y a tout, c'est génial, mais ouais, voilà.
Regarde-moi, déjà avec... Non, mais moi, c'est ça, moi, je t'ai découvert via les réseaux sociaux, et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui, en tout cas, que tu sais imprimer l'image. C'est-à-dire que, voilà, il y a un regard, il y a une posture, il y a quelque chose qui fait que ça imprime. Alors, on va dire, les rageux vont me dire, oui, mais avec les photos, on fait ce qu'on veut, et on peut les rendre... Enfin, quand même, c'est pas tout le monde qui peut...
Non, on n'est pas égaux face à la photogénie... On n'est pas égaux.
Pas égaux. Et surtout, face à ce tempérament, c'est vrai qu'on voit cette génération de comédiennes et de comédiens qui peuvent s'exprimer via les réseaux sociaux, se présenter avec ce mini CV que tu as fait qui vaut, à mon avis, mieux que n'importe quel CV ou même papier que tu pourrais envoyer. Donc, faut se battre.
Ouais, clairement. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, faut utiliser les outils qui sont à notre service. Et c'est vrai que les réseaux, faut pas tout reposer là-dessus, mais c'est génial en fait pour rencontrer du monde. Moi, j'ai pas fait d'école, je me suis lancée direct. Alors, j'aimerais reprendre des cours si tu as d'autres écoles à me conseiller ou gens à me conseiller, je prends. Mais au-delà de ça, je me disais, j'ai trop perdu de temps parce que tu te compares beaucoup. Tu te dis, ah là là, lui, il s'est lancé à 10 ans, il s'est lancé à 15 ans. Moi, j'ai 20 ans, qu'est-ce que je fais? Enfin,
c'est terrible de se dire qu'on se sent vieux quand on a 20 ans.
C'est
petit vieux,
c'est ça.
Pense, hein.
Bah, moi, je commence ma carrière de chanteur à 48, hein,
c'est compliqué, que bah oui, compliqué. Bah oui, ma pauvre petite dame.
Ouais, tu te compares sans cesse, et du coup, je me suis lancée.
Des cheveux blancs qu'il y en a déjà. Ah non, ah non, tu vois, même nous, on a.
Non, ouais, je me suis lancée, enfin, là-dedans, quoi, direct, et sans prendre de cours, tu vas chercher les gens, bah j'en ai rencontré beaucoup sur les réseaux, en fait. Grâce à ça, j'ai pu rencontrer des jeunes réals aussi en école, hein, pareil. Et,
au point de m'appliquer mon job, d'après ce que je vois.
Ah voilà.
Regarde cette photo.
Bah oui, j'ai été dans une émission, c'était en direct ça. Oh là là, qu'est-ce que j'étais stressée. Pour parler de mon parcours aussi, c'était l'année dernière. Et c'est génial en fait, c'est grâce au réseau tout ça. Donc je continue de me battre.
Spontanément, j'allais avoir une question qui était... Mais en fait, je me suis rendu compte que non, parce qu'en fait, on a effectivement un retour sur la table. Parce que spontanément, je voyais ton regard se baisser quand ta photo apparaissait. Et j'ai dit, elle ne peut pas se voir à l'image.
Non, bah c'est... Là encore, bon, c'est une image qui ne bouge pas, c'est une photo, bon, ça va. Après, pour se regarder dans les films, c'est compliqué, hein, le regard qu'on porte à soi-même. Je pense que c'est important de se regarder pour justement améliorer son jeu. Donc je me force, il y a des films, des courts-métrages que je n'ai pas du tout envie de regarder, que j'ai fait au tout début, tu vois, ça fait 1 an et demi, 2 ans que je fais ça, et je n'ai pas du tout envie de les regarder. Mais c'est important quand même, donc je me force à le faire dans tous les cas, à me dire, ok, ça, c'est pas comme ça qu'il faut que je fasse, il faut que j'améliore ce petit... Même un sourcil, tu vois, même un regard, mais c'est tellement important que ouais, il faut quand même se regarder.
Malgré ce grand âge qui est le tien, le fait que tu n'as pas suivi de cours, je le disais, tu as quand même réussi déjà en si peu de temps à avoir un agent, je crois, en plus.
Oui, ouais, ouais, je suis en agence depuis mars, elle est géniale. Tu vois, ce n'est pas les grosses agences dont on parle tout le temps, mais elle est géniale et comme accompagnement au quotidien. C'est super d'avoir quelqu'un sur qui se reposer, enfin pas se reposer mais en tout cas avoir un avis sur, tu vois, les self-tapes que je vais envoyer, sur tel ou tel casting. Ah, on m'a proposé ça, est-ce que je suis vraiment légitime à accepter, enfin toutes sortes de questionnements auxquels j'avais pas de réponse avant, où j'avais...
Tu veux faire
ce que je veux faire,
ouais, en idéal, en plan de carrière, tu dis on choisit ce qu'on veut faire ou ce qu'on veut pas faire, est-ce que tu sais ce que toi t'as envie de faire?
Ben déjà vivre 100% de ça, parce que bien sûr c'est pas encore le cas, je travaille aussi à côté, etc. Et franchement le goal pour le moment ce serait juste me dire ok, je peux vivre de ça à 100%, j'ai plus à m'en faire. Mais après des projets, bah, y en a tellement que j'aimerais bien tenter, tu vois. Déjà l'horreur, rien que ça, j'adorerais tester, enfin ce serait génial. J'ai fait de l'équitation pendant 15 ans, j'adorerais faire un film où je monte à cheval pour remettre, tu vois, mes deux passions ensemble.
Ouais.
Il y a tellement de projets que j'adorerais faire. Enfin, voilà, même les séries. J'avais fait une série pour commencer, une série de l'ancien temps. On était dans des châteaux et tout. J'étais juste figurante. Mais juste ça, c'était génial. Et j'adorerais en faire en jouant totalement, tu vois.
Et sans rien citer, est-ce que tu sais ce que tu ne veux pas faire? Là, je me tourne vers celui qui a un petit peu plus d'expérience. Est-ce que c'est facile au début, quand on commence sa carrière, de dire non?
Non, je pense pas. Je pense que c'est pas facile de dire non. Et puis, je suis pas sûr qu'il faille dire non. Je pense qu'il faut être au début de sa carrière, il faut être assez ouvert aux propositions. Et par contre, être très sûr de ce qu'on veut. Ça veut pas. Enfin, c'est un peu contradictoire ce que je dis, mais c'est-à-dire que si on sait avec quel réalisateur on veut tourner, si on sait avec quel production, dans quelle série on veut être, et qu'on le cultive, en fait, ça va venir. Mais au début,
on accepte les projets qui
viennent. Et puis c'est difficile de dire non à quelqu'un qui dit « Je t'adore, j'adore ce que tu fais, vraiment. » Et puis « Ah oui, mais ce que tu... Ah oui, mais... »
Il n'y a pas assez de zéro sur le... Non, mais c'est vrai que c'est compliqué.
Non, au début, c'est compliqué. Et après, il n'y a pas de règles, hein. C'est surtout ça la difficulté, c'est que certains vont être intransigeants et puis ça va bien marcher pour eux et tant mieux. D'autres vont être intransigeants, ils vont rester l'artiste maudit dans leur chambre, donc c'est pas simple. Non, je pense que vraiment chaque parcours est complètement unique. Du coup, si je peux me permettre un conseil, ne jamais se comparer.
Oui, mais bien sûr, je sais, je me le répète sans cesse qu'il ne faut pas se comparer. Ouais,
parce que de toute façon...
Chacun son parcours.
Oui, et puis si la personne a le rôle, bah c'est tant mieux, c'est son rôle, c'est pour elle, pour lui, tu vois.
Le tien viendra.
Carrément. Le tien viendra au bon moment, généralement.
À toi de te donner toutes les chances, et je pense que tu as la volonté, le tempérament pour avoir discuté avec toi en dehors du plateau en préparant l'émission, pour voir que tu as l'air d'avoir l'envie, en tout cas, d'y arriver.
Bah, l'envie, elle est là depuis toute petite. Et... tu vois, au lycée, bah, j'étais pas dans un lycée de cinéma. Je sentais qu'il me manquait quelque chose, tu vois, un bout de créativité. C'est pour ça que je me suis mis à la photo. Tu vois, on recherche en fait cette créativité. Je la recherchais dans tout ce que je faisais, mais je sentais que j'étais pas à ma place. Et en me lançant là-dedans, en abandonnant mes études et tout ce que je faisais, en me lançant dans le cinéma corps et âme, bah, c'est génial. Même si dans 6 mois, je sais pas où je serai, même si dans 1 an, je sais pas où je serai, bah, c'est trop bien. Ça fait 2 ans que je vis, enfin que je fais ma passion et c'est... Il n'y a rien de mieux, quoi.
En même temps, t'inquiète pas, même s'il y a 22 ans, tu sais pas encore où tu en es, il te restera quelques petites années avant que ça vienne. Et puis surtout, parfois, ça peut arriver tard, même si on le sait que c'est plus compliqué pour les femmes dans ce métier-là, à partir d'un certain âge. Mais ça, c'est encore une autre
question. Pour l'instant.
Mais pour l'instant, mais je pense que ça va changer.
Ça change déjà.
C'est déjà en train de changer. Et il faut se donner tous les moyens, mais je pense que tu les as. Et puis surtout, voilà, ne renonce rien et va... Il faut toujours avoir de regrets, c'est ce qu'on dit toujours.
Ouais, c'est pour ça que je me suis lancée.
Il vaut mieux avancer.
ça me fera au pire des anecdotes à raconter si, si ça marche pas.
Puis au pire, tu n'as rien.
Et au mieux.
Tu vois. Voilà. On a vu que tu passes sur ce micro, tu te tiens bien et tout. Voilà. Il n'y a pas de soucis. Les projets immédiats avant de refermer cette émission, c'est quoi pour toi?
Là, j'ai passé le plus gros casting de toute ma vie récemment à Lille pour un long métrage, rôle principal de long métrage. Donc, comment vous dire que j'étais comme ça en y allant, c'était le callback du coup, deuxième partie. Et prochainement, dans une série qui débuterait normalement en janvier,
ouais.
Qui s'appelle Alastor. Je ne peux pas en dire beaucoup, mais globalement, un reflet de notre réalité actuelle, tout en portant des bonnes critiques que certains n'ont pas forcément envie d'entendre, mais
bon, très engagées. Bon, Alastor, voilà. On surveillera ça. Et puis peut-être donc un film d'horreur. Allez-y, contactez-la, elle en a envie. Et puis à cheval aussi. Alors, si vous proposez le combo gagnant, un film d'horreur à cheval, alors là, Clémentine, elle sera aux anges. On vous mettra évidemment toutes les infos pour pouvoir suivre Clémentine. Et puis évidemment, comme on le fait régulièrement, dès qu'on met en avant des jeunes talents, tu es ici chez toi, donc tu reviens quand tu veux, dès qu'il y a des projets. On se fera un plaisir de te suivre et de t'accompagner dans ce beau parcours qui est le tien.
Avec grand plaisir.
Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Daniel d'avoir répondu présent. Merci. Encore une fois au dépoté. On croise les doigts donc pour la petite boutique des horreurs qui se joue au moins jusqu'à la fin de l'année.
Jusqu'au
4 janvier. Allez-y, c'est l'un des gros succès à Paris. Et puis vous allez voir aussi la série post-structure de Clarisse qui était avec nous tout à l'heure. Et puis voilà, on embrasse aussi l'équipe du long métrage dans lequel tu seras avec que des gens bien à l'intérieur. Donc je pense que ça va être intense. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Max qui était à la réalisation. On va se retrouver nous très vite pour un nouveau numéro de la loi des séries et du club. Merci de nous avoir suivis et à très très vite. Merci à tous.